Merci Sol, merci Bernard pour vos deux interventions qui sont très riches. Moi j'ai trouvé, en les écoutant, que vous essayez de remettre l'éthique à sa place, chacun avec sa façon, avec une entrée extrêmement différente, et au fond aussi de cerner aussi quel est le propre, comme vous disiez Sol dans le petit argument, le propre du champ lacanien. Vous avez utilisé Sol un terme que j'ai apprécié. Vous avez parlé de l'usure de l'éthique, hein, donc de l'usage. Et je me disais que, bon, c'est un petit, une remarque un peu annexe, que c'est bon de reprendre les termes qui sont souvent utilisés, de leur redonner de la fraîcheur. C'est pas parce qu'on les utilise qu'ils deviennent langue de bois, au contraire, il faut au contraire continuer à les interroger, à les mettre au travail, comme vous l'avez fait. Et voilà, ça m'a. Je trouve que ce mot d'usure, il faut qu'on le garde en tête pour un petit peu dépoussiérer nos termes. Oui, donc vous avez abordé tous les deux la question de l'éthique de points de vue très différents, mais je trouve qu'il s'éclaire. Alors juste des petites remarques et après je donnerai la parole. Alors j'ai apprécié la définition seule que vous donnez de la responsabilité, se porter garant de sa division. Alors ça, j'ai trouvé ça très éclairant. Je trouve que c'est à travailler. Et tous les deux, vous avez fait une bascule dans la conclusion, c'est-à-dire vous êtes, pour vous, après la traversée du fantasme, au fond, il y a un effet sur la pulsion, et vous seul, vous passez du côté de la fête. Alors, tous les deux, il y a quelque chose dans votre exposé qui, à la fin, bascule du côté de la pulsion, du côté de la fête, et je me demandais si c'était ça, au fond, la vérité que la science exclut. Voilà. Alors évidemment, le retour à Freud, ce second retour à Freud, je trouve ça très intéressant, je crois que... Mais surtout, ce que vous dites, enfin, les dernières propositions de Lacan nous permettent de relire Freud autrement aussi. Donc... c'est ça que vous amenez, cette seconde lecture avec la question de la jouissance, c'est vraiment très intéressant, enfin très précieux, je trouve, et que ça renouvelle un petit peu notre lecture de Freud. Voilà, c'est juste quelques mots. Si j'aurais une petite question, c'est un détail, si vous pouviez dire quelque chose sur ce mystérieux désir autour de la science. Voilà, parce que au fond... pourquoi mystérieux, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est comment dans le Science et la vérité, je crois que Lacan dit que l'objet, vous le dites, qu'il y a entre le sujet de la science et le sujet de l'inconscient, là il y a quelque chose qui est en écho. Alors j'aimerais bien que vous en disiez un peu quelque chose de plus. Et puis, une précision, Bernard, au fond, ce que vous laissez entendre, c'est que le désir est entaché par la jouissance.
Bon.
Ou attaché, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'était pour démarrer un petit peu ce que moi j'ai un petit peu repéré. Et qui m'a intéressée, pour démarrer la discussion. Peut-être...
Pour démarrer les réponses.
Allez-y.
Par réponse.
Oui, quelques...
Le mystérieux désir, oui. Le mystérieux désir, c'est Lacan qui utilise l'expression. Il la trouve tellement que je m'en suis servie. Alors c'est le mystérieux désir qui anime la science, c'est la thèse de Lacan, c'est qu'il y a quelque chose qui anime la science, cette science qui galope de plus en plus, c'est bien plus le cas aujourd'hui, on le voit qu'on l'idée qu'on peut avoir de ce qu'il en était en 1960, à l'époque de ce séminaire sur l'éthique. Et pourtant, c'était clair à ses yeux, hein, qu'il y a un désir de... Alors, est-ce qu'il faut parler d'un désir de savoir? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait que ça marche à toute allure, et rien ne l'arrête. Hein. Lacan a beaucoup parlé de l'angoisse des savants, l'angoisse d'Oppenheimer, qu'il cite à plusieurs reprises, l'angoisse de... il attribue l'angoisse, à François Jacob, celui qui fait toutes ces découvertes autour des bactéries dans les années 70, que Lacan évoque dans la troisième. Donc il y a quelque chose qui nous échappe complètement. Donc quel est le désir qui anime la science? Est-ce que c'est un désir de savoir? Est-ce que c'est ce désir de savoir dont Lacan dit qu'il n'existe pas, hein, qu'il n'y a pas de désir de savoir, au sens où il n'y a pas de désir d'inventer le savoir? Eh bien, il y a dans la science quelque chose qui pourtant ne cesse d'inventer du savoir, semble-t-il. Sinon, bien sûr, parlant du désir, on ne peut pas ne pas penser au fait que Lacan a rapproché le discours de la science du discours de l'hystérique. Donc il y a quelque chose du désir qui est aux commandes dans le discours de la science également. Sinon, à propos de l'usure, oui, je me disais que le terme éthique est usé, et plus que ça. Parlons-en, voyons comment nous on peut en parler autrement, qu'est-ce qu'on en fait, il est là. Lacan commence en disant je l'ai choisi, c'est un terme plus rare que celui de morale, ça a une autre portée. Bon, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui réhabiliter le terme de morale pour aller un peu à contre-courant? C'est le genre de choses que Lacan aurait pu faire. Mais les deux sens se sont vraiment écartés, hein, beaucoup plus, ils sont distincts. J'ai consulté toutes sortes de dictionnaires et aujourd'hui tout le monde les distingue, la morale et l'éthique, hein, ce n'était pas le cas en 60, hein. Donc réhabiliter la morale, c'est peut-être pas ce qu'il y a à faire de mieux. Par contre, réfléchir à ce que ça veut dire pour nous, faire apparaître les arêtes de l'usage que Lacan en fait, oui, hein, et surtout de ce qu'il en est dans le discours analytique. Moi, je au bout d'un moment de tourner autour de ça, essayer d'en faire quelque chose, je me disais, mais on pourrait presque dire, par un moment, on pourrait presque dire que la psychanalyse est une éthique. On peut aller jusque-là. L'idée m'est venue. Alors, on ne le dit pas parce que on tient à, nous tenons à la définition que Lacan en a donnée, c'est-à-dire c'est un discours, ce qui est tout autre chose. Hein. C'est le lien social établi par la pratique d'une analyse, un lien social particulier. Hein. Parmi les plus hauts, dit-il, hein, il le juge, qui existent, qui restent par nous en exercice, qui restent pour nous en exercice. Ça, c'est toujours télévision, c'est 74. Hein. Donc, c'est très fort, parce que il me semble que ça fait référence à l'idée que il ne reste pas beaucoup de liens sociaux en exercice, vivant. On a que la conséquence de l'empire s'étend du discours capitaliste et que ça porte atteinte aux liens sociaux de plus en plus. Donc il y a un côté un peu... Bon, je dirai après.
Sur votre question, là sur Antachille, on pourrait presque reprendre le terme de Lacan son fameux texte Subversion du sujet, dialectique du désir, pour dire au fond il y a une dialectique du désir et de la jouissance dans notre compréhension contemporaine de l'enseignement de Lacan, et que au fond notre approche du désir essentiel à notre éthique dire dès le début, dans notre pratique, notre approche du désir se règle et s'axe sur le réel du désir, sur l'homme jouissance qui le focalise. Voilà en quoi ce serait entaché. Pas entaché, c'est profondément compénétré de jouissance. Et se débrouiller avec, me semble-t-il, dans une analyse, c'est avoir comme axe de visée cette dimension de la jouissance qui focalise notre vie sexuelle, nos fantasmes et vraisemblablement l'ensemble de notre conduite.
Bon. Des questions ?
Et pour Bernard, une question aussi sur la fin de ton exposé. Quand tu évoquais quelque chose de moins stéréotypé que la perversion, est-ce que tu as une idée de ce dont il s'agit ? Et est-ce que tu serais d'accord pour considérer que c'est le désir du psychanalyste ?
Il me semble qu'ils sont distincts chez Lacan tout au long, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire que le réel auquel la science a affaire est un réel que la science aborde par les petites équations, comme il dit, par le nombre, c'est le réel du nombre. Hein, alors que le réel auquel la psychanalyse a affaire, c'est la jouissance. Et au-delà de ça, l'impossible. L'impossible, j'ai évoqué l'impossible que la parole comporte, hein, et l'impossible du non-rapport sexuel. C'est ce que Lacan a isolé à la fin comme étant l'impossible à proprement parler, si je puis dire le réel à proprement parler, auquel l'expérience analytique nous confronte. Donc, oui, il y a une distinction.
Et alors, est-ce qu'il y a conflit ?
Il n'y a pas conflit entre les discours, conflit entre les réels. Je ne vois pas pourquoi il y aurait conflit entre les réels. Non,
la science ne veut rien savoir du sujet.
Tu dis si.
Bien sûr. Oui, oui. Mais la psychanalyse s'occupe de ce dont la science ne s'occupe pas. De ce que la science exclut. J'ai parlé de la vérité que la science exclut, mais on pourrait dire aussi le sujet. Hein. C'est-à-dire que la psychanalyse est concernée par la science. Inévitablement, par le discours de la science. Mais la réciproque n'est pas vraie. Il n'y a pas de réciproque. La psychanalyse, la science s'occupe de son affaire. Et alors, plus la science s'occupe de son affaire, plus, disons, la vérité du sujet est exclue, plus il y a une place pour la psychanalyse, en un sens. Alors là-dessus, j'ai trouvé qu'il y a des moments où Lacan semble un peu pessimiste quant à l'avenir, et puis à d'autres moments, pas du tout. Hein, pas du tout. Il y a des moments où il considère que la psychanalyse, non pas qu'elle triomphera, mais qu'elle continuera à être là.
Alors, je vais te répondre oui pour te répondre non. Donc, commençons par oui. Dans la mesure où le désir d'un analyste s'entend comme essayer qu'il y ait de l'analyse dans une cure, ça suppose d'épargner, comment on dit souvent, l'analysant ou l'analysant, notre jouissance. À ce titre, on pourrait demander au désir de l'analyste disons, tempérer la perversion. Et alors non, je pense que c'est pas ça l'axe du tout de ce qui s'offre à l'homme ou à la femme pulsionnelle à l'issue d'une analyse. Ça me semblerait, alors je ne voudrais pas mettre les rêveurs ou les rêveuses de mon côté, hein, mais disons que moins stéréotypé que la perversion, ça me semble plutôt du côté de l'amour.
Jean-Pierre.
Oui, j'avais deux réflexions qui étaient aussi deux questions de la Sol et de la Bernard et qui s'inscrivent peut-être dans le fil des questions de Marc. Par rapport à ce désir mystérieux de la science, est-ce que ça ne serait pas tout simplement, tout modestement, le désir de remplacer Dieu, de se substituer à Dieu comme origine, comme cause, comme savoir, comme source du savoir et comme vérité, en fin de compte. C'est-à-dire venir répondre à l'angoisse de l'homme, du sujet. Et est-ce que, à l'heure actuelle, la science, est-ce que c'est encore l'homme neuronal qui l'incarne ?
Qui
l'incarne ? Pour
comprendre quoi ?
La science. Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'homme génétique ? Hein, on est vraiment à l'heure actuelle saturé du génétique comme cause de dysfonctionnement, on pourrait dire. Hein. Et ce serait un peu la question, est-ce que là aussi il y a une incompatibilité entre l'homme génétique, la constitution génétique et la responsabilité du sujet.
Alors nous avons eu une fois très très courte échange à ce propos en sortant de nos séminaires du jeudi. Moi je considère que la génétique contemporaine, disons post-structurale, post-François Jacob, ADN et compagnie, telle qu'elle se développe surtout depuis le début du XXIe siècle, a quelque chose de très très intéressant quant à penser la structure pour nous, justement complètement débarrassée du structural et avec des éléments qui ressemblent étrangement à quelque chose d'une multiplicité inconsistante, hein, pour reprendre une formule assez simple pour caractériser la langue et au fond la matérialité de l'inconscient. Il y a des choses, à mon avis, à travailler. Peut-être un jour le fera-t-on. En tout cas, moi, je serai partant pour le faire avec qui voudra, pour travailler les avancées de la génétique contemporaine vers un modèle de structure qui serait complètement révolutionné par rapport au structural et qui, à mon avis, n'est pas étranger aux dernières avancées de Lacan. C'est pourquoi autant le truc du génome, etc., me semble une déviation techniciste et positiviste absolument fracassante et hyper dangereuse. Autant la génétique théorique la plus avancée, en tout cas celle de la deuxième décennie du XXIe siècle, me semble très 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 intéressante pour qu'on réfléchisse un peu sur un modèle de structure qui nous conviendrait mieux. Donc, tu vois, je trouve ça très ouvert.
Alors, un petit mot, je n'ai pas de réponse à ta question, à ta suggestion, sur est-ce que le mystérieux désir de la science serait de remplacer Dieu, c'est ça hein mais le fait que tu poses la question comme ça, m'a fait penser au fait assez frappant qu'on voit dans la science ou les sciences aujourd'hui, c'est qu'elles s'accommodent, parce que dire que la science s'oppose, que le mystérieux désir de la science serait de remplacer Dieu, placerait la science ou les sciences en opposition à la religion, en franche opposition, en guerre. On voit bien les sciences s'accommodent tout à fait des croyances religieuses. C'est trop court chez les scientifiques à quel point ils sont prêts à.
En guerre ou sur le même plan
hein?
En guerre ou sur le même plan?
Oui.
Dieu crée l'univers ou le Big Bang crée l'univers en 1000 milliardième de seconde.
Si je comprends bien, Jean-Pierre prétend interpréter le désir de la science.
C'est une hypothèse.
Bon courage. Bon, juste quelques échos à chaque exposé. Je m'interroge sur l'équivalence, Bernard, que vous avez établie entre la constitution chez Freud, ce que Freud appelle la constitution, et la jouissance subie que Lacan avance dans les années 75. Alors, voyons. La jouissance subie des parents, c'est en effet ce qui marque toutes les naissances d'un arbitraire. Et c'est à cet arbitraire, par exemple, que tous les projets d'éducation collective, que ce soit du côté communiste ou du côté des kibbutz, ont prétendu soustraire les enfants. Ils ont prétendu les soustraire à l'arbitraire de ce qui se transmet du parent individuel. Bon. Alors, je ne veux pas défendre les éducations collectives, loin de moi cette idée. Mais c'est pour vous faire saisir ma question. Dans les éducations collectives, où on aurait peut-être soustrait l'influence de la jouissance subie des parents particuliers de chaque enfant, Freud continuerait à nous parler de la constitution de chaque enfant. Hein? Donc ça n'est pas du tout équivalent. Ce qu'il y a d'équivalent entre la constitution et la jouissance subie, c'est que c'est à l'origine, dès l'origine, propre à chacun, ça distingue chacun, mais c'est quand même deux concepts totalement opposés. Parce que la jouissance subie, elle est, dans l'idée de Lacan, elle est parfaitement contingente. Un accident historique, on a tel parent, on est à tel endroit, et c'est tel parent qui nous transmet. Mettre ça, la constitution chez Freud, ça vient de la nature, il n'y a pas à tortiller.
Ça vient de la culture.
Hein? Ah non, ça s'oppose à la culture, la constitution chez Freud. Chaque fois que la culture donne sa langue au chat, que toutes les ressources qui viennent de la culture, du symbolique, de l'imaginaire, ont donné leur langue au chat, Freud dit « Ah, reste le facteur, le mystérieux facteur constitutionnel ». Donc, dans mon idée, si vous voulez, c'est une discussion. Dans mon idée, c'est très opposé, en fait. Alors, c'est peut-être une définition reprendre chez Freud, je ne sais pas. Donc voilà, j'aimerais qu'on discute ça. Alors Sol, vous avez bien mis en valeur et tourné autour du problème éthique du discours, éthique du sujet. Avec un sujet responsable, ça veut dire qu'il y a une éthique du sujet, quand même. Moi, mon idée là-dessus, c'est que finalement, enfin, force les choses, je le soutiendrai pas loin, mais je dirais qu'il n'y a d'éthique que des sujets. Lacan, bien sûr, nous dit éthique relative au discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque type de lien social, celui du maître, celui de l'analyste, prenons ces deux-là, chaque type de lien social défie, comporte un commandement ou un devoir. Hein? Dans le discours du maître, il faut que ça marche ou pas. Dans le discours de l'analyste, c'est question sur la division du sujet par la jouissance. Donc ça définit un devoir en quelque sorte.
Oui.
Hein? Un devoir qui est propre au discours. Mais ensuite, l'éthique, elle est de chaque sujet. Chaque sujet qui se place, dans, qui répond en quelque sorte, ou qui ne répond pas, à l'impératif de chaque discours. Parce que si on n'applique pas l'éthique au sujet, ça n'a pas grand intérêt, à vrai dire.
Mais ça le concerne. Mais ça ne veut pas dire que ce soit l'éthique d'un sujet donné, d'un
individu. Bien sûr que si.
D'un individu.
Je dis, c'est l'éthique d'un sujet. Un sujet responsable. Un sujet responsable veut dire que chaque sujet est responsable de la position qu'il prend. Et la position qu'il prend, c'est la position qu'il prend par rapport au discours dans lequel il est né d'abord, qu'il n'a pas choisi. Après, quand il s'agit du discours analytique, c'est déjà un choix. Il est responsable
Absolument.
De choisir le discours analytique. Mais je ne vois pas comment on pourrait soustraire l'idée que l'éthique est fondamentalement du sujet.
Moi, j'ai essayé
la notion devient en quelque sorte... bien sûr, vous avez raison, c'était un mérite de votre exposé d'avoir marqué que Lacan a insisté sur le fait que l'éthique est relative au discours. Chaque discours a une éthique. Ça veut dire que chaque discours définit un impératif et un devoir. C'est ça que ça veut dire, aussi simple. Mais ensuite, les discours, ça n'existe pas sans les sujets qui les font fonctionner.
Oui.
Et donc, c'est bien l'éthique des sujets qui prime, en fait. Je trouve que ce serait se tirer l'épingle du jeu que de dire
du tout.
L'éthique du discours l'emporte sur l'éthique du sujet. Je finis. Freud invente la psychanalyse. C'est l'éthique de Freud avant d'être celle de la psychanalyse. Il crée l'éthique de la psychanalyse, Freud. Hein? Et pour tous les discours, c'est comme ça. Il y a un dire premier, et il y a une figure et un dire à l'origine des discours. Ça veut dire qu'il y a le sujet, l'éthique du sujet prime. Elle est première. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non.
Bon.
Non, pas vraiment. J'entends bien ce que vous dites, mais j'en fais une lecture et une façon de penser la chose un tout petit peu différent. Concernant Freud, par exemple, en entendant, il y a une remarque de Lacan intéressante à un moment donné, parlant justement des trois essais, de la sexualité, des perversions, de la névrose, des perversions en particulier, il fait référence à ce qu'avaient apporté Kraft et Bing et comment il s'appelle et Havelock Ellis, oui, et donc il parle de la canaillerie de ces deux-là.
Oui. C'est l'éthique du sujet.
Il parle de leur canaillerie, de la canaillerie de cette. Recherche futile, de cette investigation futile, pour l'opposer à ce qu'il appelle, lui, la responsabilité de Freud.
Oui, mais c'est la responsabilité de Freud, c'est ce que je dis.
Oui, responsabilité de Freud. Mais l'éthique n'est pas celle du sujet, elle est celle du discours.
Elle est celle de Freud.
Elle est relative au discours. Les sujets l'incarnent de différentes façons.
C'est ça.
Les sujets d'un discours.
Ce sont des sujets qui sont à l'origine des discours. Il y a des inventeurs de discours.
Ça, c'est vrai.
Les discours, ils n'existent pas parce
ça,
que Dieu les a créés et nous les a donnés. Donc, les discours, ils sont historiques. Donc, il y a des individualités, si on ne veut pas dire sujet, je ne sais pas comment dire. Il y a des individualités qui sont des inventeurs discursifs.
Oui. Avec Freud, on a un exemple.
Voilà, c'est l'exemple de Freud. C'est pas bon, mais c'est une discussion pour...
Oui,
mais
pour discuter.
Si vous voulez qu'on discute
discuter,
réfléchir.
Alors,
voilà.
J'ai pas envie de
Je vous demandais si vous voulez qu'on discute du constitutionnel. Le constitutionnel chez Freud, c'est comme des tables gigognes, en fait. Il y a... ça commence par la discussion sur les caractères acquis, la discussion lamarckienne. Est-ce qu'il y a une hérédité, une transmission des caractères acquis? Alors, les caractères acquis, c'est strictement la vie d'une famille dans son petit coin et la façon de manger ou la façon de scier du bois ou de mettre son bonnet sur la tête. Etc. Et
comme le poussin apprend à picorer parce qu'il
Parce qu'il n'a pas de bonnet sur la tête.
ça vous ajoute un bonnet qui n'est pas sur
la tête. Non, j'adore les cartoons, mais. Alors, les caractères acquis, c'est. Alors, le grand débat à l'époque, c'est Darwin contre Lamarck. Bon, en fait, Lamarck n'était pas du tout uniquement un théoricien des caractères acquis. C'était peut-être plutôt Weismann, mais enfin, ça fait rien. On a dit Freud est lamarckien, donc il est en retard sur la théorie d'évolution, et il était effectivement un peu... Il croyait un petit peu... Donc, il y a ça. Il y a ensuite, en arrière-fond, la tradition de la psychiatrie, en particulier française, sur la dégénérescence. Et donc, quelque chose que trimballerait, entre autres... les classes dangereuses, comme Zola nous le décrit. L'alcoolisme germinal. OK ? Et puis, il y a un troisième degré de la phylogenèse, au sens le plus large, et bon, il y a Moïse et le monothéisme, c'est-à-dire le meurtre fondamental du père, indéfiniment répété dans l'infini des générations.
Mais ça, c'est pas la constitution.
Ah si, si, dans une certaine mesure, pour lui, tout ça, c'est la phylogenèse. Il écrit ici, constitution entre parenthèses, vécu préhistorique, Freud. Mm-hmm. Je ne l'ai pas repris, mais bon. Donc, je crois que une position, disons, plus rationnelle et moins engagée dans le mythique, au sens jungien du terme, serait de constater... que la jouissance subie des parents, c'est ce qui se passe pour un enfant. Alors, vous dites avant la naissance, mais dès la naissance surtout, dans le bain de langage, dans le bain de la langue, et c'est la jouissance subie étant la jouissance que les parents prennent à leur propre exercice, usage de la langue, dialectale, locale, individuelle, etc., et à travers lequel l'enfant reçoit la langue.
Mais là-dessus, pas de problème.
Hein. Ah, c'est tout ce que je dis.
Je dis, parce que la différence, c'est que je dis, c'est pas la constitution freudienne.
Ah, non, c'est pas la constitution, c'est ce que nous, à mon avis, d'un point de vue rationnel, on pourrait mettre à la place.
On mettrait à la place.
Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Ah, mais j'ai rien voulu dire d'autre.
Et c'est pas équivalent, mais
ensuite,
on peut le mettre à la place.
Ensuite, s'il fallait reprendre tout ce machin... Il y aurait une discussion sur le trauma, où se place-t-il,
oui, ça,
est-ce que c'est
là
ouais.
tout ce qui... L'accident.
Donc il y a une dimension contingente fondamentale, effectivement, on est tout à fait d'accord là-dessus, sur ce qui arrive dans la réception de la langue.
De côté.
Marc, une dernière question.
Oui, c'est la... Je reviens à la discussion précédente sur le sujet... responsable de sa position. Effectivement, d'accord, dans le cabal de discours sans sujet, qui a sa place. Mais la question que je vais vous poser à toutes les deux qui parlaient de ça, est-ce que le fait de dire que le sujet est responsable de sa position, est-ce que ça implique que le sujet avait le choix de cette position ou pas? Ou est-ce que ça implique, c'est presque un alternatif, ou est-ce que ça implique que le sujet a un choix tout à fait différent, qui n'est pas le choix de cette position, mais le choix de la faire sienne, de faire sienne la position que lui a fait l'inconscient?
J'ai dit ça à un moment donné. Il a le choix de la faire sienne ou pas. Acquiert-le pour le posséder ou pas. De même, démissionner, nous démissionnons. Nous sommes faits responsables, dit Lacan. Donc là, il n'y a pas de choix, nous sommes faits responsables. Le choix étant de démissionner ou pas. Il y a différents niveaux. Hein. Ce qui me semble et que j'ai voulu accentuer, à quoi j'ai voulu faire un sort, c'est que cette phrase, la position du sujet, de notre position du sujet, nous sommes toujours responsables, qu'on peut peut-être tirer dans d'autres sens, dans le contexte où Lacan la présente, qui est très très précis, au début de La science et la vérité, il me semble que ça désigne ce que j'ai essayé de distinguer de l'usage que nous en faisons couramment et qui tire, comme je disais, vers une sorte de psychologisation de la question. Quand il dit de notre position du sujet, nous sommes toujours responsables, il ne s'agit pas de d'une position comme ci ou d'une position comme ça. C'est du fait de se retrouver en position de sujet et pas ailleurs. Et ça, on est responsable de ça. Après, il y a d'autres choses.
En fait, si on prend Lacan, pas le Lacan du début, mais...
Vous pouvez prendre le micro, s'il te plaît.
Pardon, merci. Sur cette question, sur la question de Marc exactement, il faut bien voir quand même qu'à partir des années 70, Lacan met le sujet en opposition à l'inconscient. À savoir que l'inconscient affecte pas le sujet, mais le corps.
Oui, c'est vrai.
Et donc l'opération de l'inconscient, c'est de l'opération sur la jouissance ou sur les pulsions. Et du coup, la position du sujet, elle n'est pas déterminée par l'inconscient. Elle est déterminée par lui-même, en quelque sorte. Alors, d'où elle sort? Qu'est-ce qui fait que l'un va assumer, va répondre d'eux, ne va pas répondre? C'est quand même très mystérieux dans la réalité. Mais en fait, on le constate. Mais ceci dit, on ne peut pas innocenter, en quelque sorte, parce que dès qu'on dit responsable, ça veut dire faute, possible. On ne peut pas innocenter un sujet de la façon dont il répond au destin que lui fait l'inconscient, comme dit Lacan. Donc, pour moi, forcément, parler de responsabilité, ça suppose une marge d'élection qui n'est pas déterminée ni par l'histoire, ni par l'inconscient. Sinon, on est des marionnettes. On est des marionnettes de la jouissance subie, des événements, de tout ce qui est arrivé après. Enfin, ça, c'est en réponse, Marc, à la question que tu posais. Et un sujet qui ne perçoit pas du tout sa responsabilité, on ne peut pas l'analyser.
C'est la canaille.
Ah oui, justement, j'avais une question, on n'a pas le temps, mais... Vous me demandez comment vous entendiez les canailles deviennent bêtes. Moi, je ne suis pas sûre d'entendre cette phrase.
Vous ne l'entendez pas?
Ah bah, je l'entends, je la lis, mais je ne suis pas sûre de la comprendre. Alors, si vous me plairez,
je terminerai sur...
voulais pas vous éclairer sur ce point, Colette.
Non, mais comme vous l'avez évoqué.
Je l'ai évoqué, je peux dire pourquoi je l'ai évoqué, parce que, ayant lu ça depuis longtemps, et ça reste présent à l'esprit, et ça s'est actualisé pour moi à un moment donné, cliniquement, à propos de quelqu'un au sujet de qui je me demandais s'agit-il d'une canaille ou de quelqu'un de bête.
Moi,
l'un ou l'autre,
il me semble. Non, sérieusement, c'est pas. Oui. Ça peut paraître drôle, mais ça ne l'est pas du tout. Hein. S'agit-il de quelqu'un de débile ou d'une canaille? Il y a des gens comme ça qui viennent en analyse, qui n'entrent jamais, qui se font jamais sujet de discours analytique. Jamais. Donc, c'est en pensant à ça, très précisément, que j'ai mis cette parenthèse sur le sujet ne s'y soumet pas. Donc, il n'entre pas dans le discours analytique, il ne se soumet pas à l'éthique de l'analyse, au devoir de bien dire, etc. Donc j'avais dit, il se soumet, et donc j'ai dit, vous, la parenthèse, vous pourriez me dire ou pas. Effectivement, il y a des cas où le sujet ne s'y soumet pas. Mais dans ce cas, il me semble qu'il s'agit de ce que Lacan évoque utilisant ces termes-là. Alors, j'étais intriguée parce que je me suis dit, bon, la canaille devient bête, d'accord, Lacan le dit, donc je le crois, mais et l'inverse, et la réciproque.
Ah non, c'est pas dans un sens.
Oui, parce que l'idée de Lacan, parce que Lacan dit, je n'ai pas la phrase exacte, mais c'est très précis, c'est que si on analyse une canaille,
elle devient bête.
Donc, ça, il le dit très clairement. À un autre moment, il dit quelque chose de différent à propos de la canaille. Il suppose qu'il avait une certaine expérience dans l'analyse des canailles, parce qu'il dit très clairement, il faut laisser au type assez de canaillerie pour qu'il se débrouille. Quelque chose comme ça, c'est assez. Ça coupe le souffle, comme on dit.
Ça voudrait dire que l'analyse rend vraiment bête.
Que l'analyse
rend vraiment bête. Voilà. S'il faut laisser un peu de canaillerie pour qu'on se débrouille après.
Alors on va rester sur cette phrase. On se retrouve la prochaine fois. Merci.